Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Florent Gouttreau, avec Julien Laurence également. On est en train d'évoquer Manchester United qui a un nouvel actionnaire, Jim Ratcliffe, qui a racheté 25% des parts du club pour 1,5 milliard d'euros. On a Aboudé également qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter de Manchester United. Salut Aboudé.
Bonsoir Nico, bonsoir messieurs.
Salut Aboudé.
Salut Aboudé. Salut Aboudé.
Alors supporter de United, on était en train d'évoquer d'ailleurs le taf de Ratcliffe depuis qu'il a repris le GC Nice. Et toi, t'es un peu dans l'expectative par rapport à ce qu'il a fait à Nice justement, dis-nous.
Ouais, parce que si tu veux, il venait avec beaucoup d'argent, etc. Tout le monde s'est dit c'est formidable, il va recruter, il va faire du bon boulot. Bon, ça se met à l'endroit, je dirais, cette année, depuis un an à peu près à Nice. Donc moi je suis pas sûr qu'il ait encore toutes les compétences pour United. Bon, on va dire que c'est son club, donc peut-être qu'il va nommer des personnes plus qualifiées, je sais pas, peut-être qu'il aura plus d'intérêt personnel, c'est un Anglais, etc. Mais est-ce que c'est une garantie pour avoir des gens qui vont faire vraiment du bon boulot? Tu sais, United en a beaucoup espéré, ils ont quand même recruté pas mal de stars ces dernières années, au-delà de tous les gars que Daniel a cités récemment, les 80 millions. Il y a Jadon Sancho qui n'a pas joué de la saison, tu as Van de Beek qui n'a pas joué.
Ah, Sancho, voilà. J'avais oublié Sancho.
Voilà, tu vois. Donc,
Van de Beek, ça fait tellement longtemps maintenant.
Voilà, tu as tellement espéré avec cette équipe que même si on te dit que tu as Florentino Pérez qui vient prendre United en plus du Real, tu te dis, attends d'avoir qui se mette à l'œuvre, en fait. Tu comprends, c'est particulier comme point de vue, mais moi, je préfère attendre de voir, en fait, avant de m'enflammer, quoi.
Mais même à Nice, en fait, finalement, à Nice, dès qu'il a mis un mec compétent comme directeur sportif avec Gislofi, c'est là aussi où, à un moment, tu peux avoir tout l'argent du monde si tu veux.
Mais c'est avec l'accent anglais.
Gislofi, non?
Gislofi.
Ah, je crois que c'était un J.
Jason Fly.
Non, mais voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ça, en fait. Tu peux avoir tout l'argent du monde que tu veux, toute la bonne volonté du monde que tu veux. Si à un moment, tu mets en place des mecs qui sont incompétents, c'est pour ça, en fait. Donc, à United, on verra bien avec qui il va venir. On a vu déjà que Dale Bradford est à Old Trafford ce soir. Donc, ils ont clairement déjà commencé à travailler, etc. On a parlé de Bradford tout à l'heure. Flo et moi, on n'est pas trop chaud. Si Paul Mitchell vient, quel Paul Mitchell va venir? Celui de Southampton, celui de Monaco, qui a fait des trucs pas mal, d'autres trucs moins bien. C'est toujours pareil. Donc, parce qu'après, sinon, s'il choisit la mauvaise personne, il y aura peut-être, ce sera pas mieux qu'un Fletcher ou qu'un John Murtough, qui sont les gens, qui étaient directeurs sportifs jusqu'à maintenant.
C'est ça, et c'est que même, enfin moi je trouve que ce mercato a été trop décevant. On a un Mason Mount qui a pas joué de la saison, il me semble. Enfin, cette équipe est trop bizarre, en fait. L'an dernier ils font 3e, c'est pas mal. Ils font une bonne saison globalement. Tu te dis quand même, bon, ils reviennent dans le truc. Cette année, tu as l'impression que tout va mal. Le gardien, il a les gants en mousse. Enfin, cette équipe est trop bizarre, en fait. Tu sais même plus les analyser, tu vois.
C'est pas l'équipe, c'est le club. C'est le club. Même il faut tout refaire jusqu'au staff
justement,
médical. Il y a trop de blessés.
Justement. Tout à fait. C'est ceux qui dirigent, c'est le staff sportif, c'est tout qui va pas. Donc même peut-être que les joueurs, ils seront mieux ailleurs. Peut-être Onana, dans 6 mois, il va ailleurs. Je sais pas, il redevient bon. Il a été énorme l'an dernier en plus. Donc moi, ça me fait mal de le critiquer. Mais ouais, cette équipe, j'ai tellement été déçu que je me dis, je préfère voir pour plus être déçu, en fait.
Eh ben écoute, merci de nous avoir appelé en tout cas, Boudé.
Merci, monsieur.
Merci, bonne soirée à toi.
Bon Noël,
merci, toi fête, aussi.
Voilà. Ciao.
Merci.
Abonnez à la revue, tout ça. Voilà.
Très bien, parfait.
Bravo,
il a
un très bon choix.
Salut,
bonne soirée à toi.
Et dis à tes potes qu'il y a l'offre à moins de 5 euros par mois, là, avec 2 numéros supplémentaires.
Tiens, Julien, juste un petit mot également sur Raphaël Varane, alors qui est titulaire face à Villa. Je rappelle qu'on a la demi-heure de jeu, 2-0 pour Villa à Old Trafford. 10e titularisation avec United cette saison seulement. Et c'est son 15e match disputé sur 27 possibles. Il a que 30 ans, Raphaël Varane. Et ouais, on parle déjà d'un départ pour lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui, là?
Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Bah, en fait, ce qu'on sait pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a été, il a été blessé. Ensuite, il est revenu et il a été sur le banc sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je pense que même Rafa lui-même savait pas trop pourquoi. Il avait été, devenu remplaçant derrière Maguire, derrière Lindelof, derrière Evans, même derrière Luke Shaw.
Ah, derrière Evans.
En défenseur central.
Ah, c'est pas bon choix de club au vu, après avoir été, un joueur essentiel d'un club qui a tout gagné comme le Real, tu vois, dans un autre grand club, mais qui est dans sa pire période des 30 dernières années.
T'as le choix de club, mais t'as aussi lui
qui a décliné.
Et il y a lui qui a décliné et qui va là-bas dans une sorte de fin de carrière.
Exactement.
Il y a trop de trucs qui ont déconné dans ce choix.
Mais c'est étonnant. Mais
quand il y va, ça sent la fin de carrière parce qu'il arrête l'équipe de France.
Il arrête l'équipe de France parce que certes.
Ah bon tout ça.
Il sent que physiquement il est moins bien.
Moi je pense que quand même globalement lui-même se connaît très bien.
Tu peux pas aller en première ligue quand c'est physiquement tu déclines. Là c'est vraiment pas le bon championnat.
C'est pour ça que moi j'imagine quand même. Alors je sais que tout est catastrophique à Manchester, Julien, mais j'imagine quand même qu'un entraîneur comme Ten Hag, s'il le fait baisser comme ça dans la hiérarchie, c'est pas uniquement parce qu'il l'aime pas. Enfin, je veux dire, humainement. Il y a quand même un souci.
Non, mais c'est pas, le problème, c'est pas trop ça, Flo. C'est qu'il est meilleur que les autres quand même. Et pourtant, tu le fais pas jouer. Qu'il soit pas au niveau d'un Van Dijk ou d'un, je sais pas, d'un.
Bah, ou à son niveau à lui.
Saliba. Hein. Je comprends. Mais il est quand même meilleur que Maguire, Lindelof, Shaw, ou Johnny Evans même. C'est ça qui a surpris tout le monde finalement. Surtout à une période où c'était très compliqué pour United. D'ailleurs à Liverpool où ils font 0-0. Alors d'accord, ils jouent très bas et ça sied plus à Varane qu'autre chose. C'est là où il est le meilleur joueur de son équipe et c'est là où ça tient et c'est là où ils prennent pas de but. Ils vont chercher un point. Donc je sais pas pourquoi. Après il a un gros salaire, c'est vrai. Peut-être qu'il cherche à se débarrasser d'un gars comme lui, d'un gars comme Casemiro par exemple aussi, qui a lui aussi un très gros salaire. Il est blessé. Alors lui c'est pas pareil. Il est blessé depuis pas mal de temps maintenant. On l'a vu tout à l'heure dans le tunnel d'Old Trafford. Alors je sais que c'est Noël, hein. Je pense qu'il a dû un peu profiter du pudding, etc. Mais faut faire attention quand même, Casemiro, hein. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi. Tu vois, dans le renouvellement de l'effectif dont on parlait tout à l'heure avec Daniel et Flo, peut-être qu'il y a ça aussi. Je sais pas. Mais c'est un autre problème que Radcliffe va devoir régler, c'est sûr.
Et puis alors un mot également sur l'adversaire de ce soir, Manchester United Aston Villa, donc qui mène 2-0, qui avec ce résultat est en train de monter à la deuxième place au classement de la Première Ligue. C'est quoi le secret de ce Aston Villa? Tu vas forcément nous parler d'Unai Emery, mais il n'y a pas que ça quand même, Julien, si?
Non, pas que ça, mais c'est une des raisons principales de leur succès actuel. C'est assez incroyable. Il est arrivé il y a un peu plus d'un an parce que c'était au mois de novembre qu'il a remplacé Steven Gerrard. Et sur cette période-là, donc de son premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils sont la deuxième meilleure équipe d'Angleterre derrière City et Arsenal. Ils ont été exceptionnels, surtout à domicile où ils ont gagné 15 matchs de suite avant de perdre, enfin de faire match nul contre Sheffield United samedi soir, c'était, ou vendredi soir. Exceptionnel, il les fait jouer de façon super intéressante avec le ballon déjà. Défensivement, ils ont une ligne défensive la meilleure en Europe, dans le sens où ils te piègent au hors-jeu mais régulièrement 5, 6, 7 fois par match. C'est assez incroyable à voir d'ailleurs. Et plus tu analyses leur match défensif et plus tu te rends compte à quel point cette ligne défensive pour jouer le hors-jeu est juste magnifique et super efficace. Et puis après, il a fait progresser ses joueurs individuellement, hein. Douglas Lewis par exemple, qui a 25 ans, qui est un des meilleurs milieux de terrain défensifs en Angleterre cette saison. Pareil pour Boubacar Camara, l'ancien Marseillais, un Ollie Watkins, un John McGinn, tous ces joueurs-là. Et en plus, juste pour finir, ils sont entourés d'hommes de confiance. Donc il y a Monchi bien sûr qui l'a fait venir comme directeur sportif, qui allait chercher Pau Torres, qui a fait des très jolis coups comme ça. Et puis il a aussi mis ses hommes à lui, outre son frère Igor bien sûr, que Daniel et moi connaissons très bien de ces époques PSG et Arsenal. Mais Igor qui est toujours là bien sûr, mais aussi un Damien Villagani.
Mais est-ce que c'est pas la première fois depuis l'Espagne qu'il est aussi bien organisé, c'est-à-dire exactement comme il veut? C'est avec Monchi qui a eu du mal, hein. Après Monchi ça a été le grand directeur sportif de Séville qu'on félicitait sans arrêt.
Ouais, son retour à Séville était dur.
Par la suite ça n'a pas été dingo, que ce soit à Rome, c'était pas bon. Ses expériences hors Séville ont loin d'avoir été toujours bonnes. Là, la façon dont ils ont reconstruit l'histoire à Aston Villa, justement, peut-être dans un club où on les a laissé travailler, ça m'étonne pas que ça marche super bien finalement.
Après, c'est un peu risqué aussi. Je crois qu'il y a 12 ou 13 membres du staff, donc du staff élargi, qui sont espagnols.
Il fait comme City, il fait comme Arsenal avec Arteta. C'est-à-dire, on donne les clés aux mecs, quoi. Finalement, on s'aperçoit c'est comme ça que ça marche, quoi. Tu donnes le trousseau en entier.
Oui. Mais là, tu vas au maximum. Là, tu as donné le trousseau de la porte d'entrée, mais aussi de la porte du jardin.
Arteta, on lui a donné quoi, Arsenal?
Peut-être un petit peu moins, Daniel. Mais oui, t'as sûrement raison.
Quelle clé il a pas, Arteta, Arsenal? Il a quoi? Il a des clés qu'il a pas?
Non, mais par exemple, il a quand même conservé pas mal de gens qui étaient dans le staff.
Ouais, mais parce que lui a dû vouloir les garder.
Oui, c'est vrai. Ouais. Il aurait eu sûrement.
À City, Guardiola, il a le trousseau.
Le seul problème, c'est que le jour où ça va un peu moins bien pour Unai Emery à Aston Villa et qu'il s'en va ou qu'il est viré,
tout de suite,
tu dois virer aussi. Là, ça coûte très cher.
Et exactement, et c'est souvent un peu le dilemme que ont les propriétaires. Alors, c'est est-ce qu'on le fait avec les risques que ça comporte, et quand ça c'est marche, ça. Tu te dis bah, j'ai bien fait de le faire.
Au passage, juste par rapport à ce que disait Julien sur le hors-jeu, là, en l'espace de temps de, non, de 3 minutes, il y a 4 ou 5 fois là, hors-jeu, ils ont pris Manchester au piège du hors-jeu.
Tiens, juste une question également qu'on s'était posée également dans l'after spécial Noël qu'on a enregistré avec les drôles de dames il y a quelques jours. Est-ce que Unai Emery est sous-coté ou est-ce qu'il est limité pour les très gros clubs ? Je sais que vous n'allez pas être d'accord, Flo et Daniel, là-dessus, notamment.
Ça, c'est un truc, en fait, on vient presque d'y répondre. C'est quoi, quel trousseau tu lui donnes, en fait ?
Pas que. Bah,
ça veut dire quoi, que les très gros clubs lui donneraient pas les pleins pouvoirs, finalement ?
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça.
Non, mais Daniel,
c'est ce que tu viens de dire, Daniel. Mais non, mais moi, il arrive, il gère tout.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois pas en quoi un mec pourrait ne pas savoir faire avec. Je ne sais pas ce que c'est qu'un gros joueur, sachant que
Daniel,
les gros joueurs.
C'est pas ne pas savoir faire. C'est la simple question qu'on peut se poser, c'est. Dans son parcours à lui d'ailleurs. Et ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, c'est une tâche. C'est pas parce qu'il était un mauvais entraîneur, on l'avait dit à l'époque. Personne n'a pensé ça. Personne ne pense ça. Moi, par exemple, je ne pense pas que Tourelle était un mauvais entraîneur, même quand il était au Paris Saint-Germain. Le fait est que les mecs, sous la pression, ont aussi à un moment donné pété les plombs, je parle de Tourelle notamment, et que quand on dit ne pas savoir gérer un truc, c'est pas qu'ils ne savent pas gérer, ils savent gérer des vestiaires. Mais il se trouve quand même qu'il reste pour l'instant l'interrogation de savoir si, quand tu as des joueurs à gros statut, c'est quand même plus compliqué que de gérer Séville ou Aston Villa. C'est l'anglais Lucas Digne là ce soir, je suis désolé, c'est pas la même chose que de gérer le vestiaire du Paris Saint-Germain.
Moi je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait si tu prends un entraîneur, tu le prends pour ses qualités, tu sais ce qu'il est capable de faire, la façon dont il veut travailler, et si gros vestiaire, comme tu dis, ça signifie mec difficile à gérer.
C'est pas forcément mais, les mecs qui foutent la merde. Hein.
Mais de toute façon, le vestiaire, c'est toi qui
plus difficile à gérer. Non, mais
c'est toi qui dois le construire.
Oui, mais c'est pas le cas dans les gros clubs. Quand au Paris Saint-Germain, les mecs signent avant que t'arrives.
Tout le monde.
Tu sais bien, même Luis Enrique, ça a été le cas. Il est arrivé, il avait déjà des mecs qui avaient signé. Donc ça, c'est le cas au bout de plusieurs années quand tu mets de la constance.
Mais quand un club est bien géré, c'est pas comme ça.
Je suis d'accord.
Quand un club est bien géré, c'est pas comme ça. Si tu vas par là, Carlo Ancelotti, il s'est fait foutre dehors par les joueurs au Bayern.
Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux te dire,
quand ton vestiaire est mal foutu, même les plus grands. N'y arrive pas.
Non, mais ça, c'est une autre question. Mais voilà. La question de savoir, et on ne saura pas ce soir, c'est est-ce qu'en gros, pour faire simple, Unai Emery peut avoir les mêmes résultats à, on va dire, à City qu'à Aston Villa, au Paris Saint-Germain, qu'à Séville. On ne sait pas.
Mais, enfin, en fait,
alors qu'il est très bon. Aussi, hein.
Mais quand il arrive au PSG,
il y a la pression médiatique aussi.
Son problème, il n'est pas plus petit que le vestiaire du PSG quand il arrive. Il arrive, lui, il a gagné des coupes d'Europe. Ce PSG-là n'a rien fait et espère progresser en Ligue des Champions. On prend Unai Emery, mais Unai Emery, son problème, d'abord, ça a été la façon dont la presse française l'a accueilli, s'est fait tailler.
Oui, mais c'est ça la pression.
J'y arrive.
Pareil en Angleterre, hein, d'ailleurs. Mais on s'est moqué de lui, etc. On en a reparlé d'ailleurs avec Julien l'autre jour.
Effectivement, donc et le vestiaire l'a immédiatement, comment dire, mal accueilli au PSG. Mais si le club, la direction dit au groupe, vous fermez votre gueule, vous bossez avec lui, moi je prendrai toujours l'exemple d'Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, comme d'autres mecs comme ça qui n'avaient pas été des grands joueurs, qui n'avaient pas eu de grande carrière, si le directeur sportif et le président arrivent à un moment et te soutiennent et disent « Écoutez les gars, vous allez arrêter vos simagrées parce que c'est lui et je vais le maintenir », t'aurais jamais eu le Grand Milan et ce gars-là serait pas la référence qu'il est aujourd'hui dans l'évolution qu'il a apportée au foot. C'est ça en fait.
Mais là,
moment.
On est d'accord.
Et
là,
le gros vestiaire à l'époque, c'est Van Basten, Gullit, machin, qui voit arriver ce mec-là. Qu'est-ce que t'as fait toi ? Rien, t'étais à Parme en Ligue 2. Ah ouais, génial. Bon, ok. Et tu veux faire quoi ? Tu veux tout nous changer ? Lui, c'était carrément, c'est plus que. Non, c'est comment la direction te soutient.
Ah, d'accord, mais quand tu n'as pas cette certitude-là, parce que dans plein de clubs, c'est le cas. Je te dis juste que Unai Emery, là où il a montré des faiblesses, mais peut-être qu'il les a moins parce que lui aussi avance, mais la question restera posée, et Julien, je pense que là-dessus, il le vit au quotidien.
Par rapport à
la pression, de tes joueurs, c'est pas seulement ceux qui foutent la merde dans le vestiaire, c'est tout simplement de savoir quand tu sors un tel pendant 4 matchs de suite que t'es capable de le faire. Je pense qu'à Aston Villa, c'est moins compliqué qu'à Paris ou au Real. C'est comme ça.
Oui.
Et ça veut pas dire que t'es pas bon. Moi, Tourelle était un coach que j'adore, mais rien que là, maintenant au Bayern, c'est déjà pas la même chose. Il, c'est déjà, c'est même même pour lui, c'est compliqué. Parce que de toute façon, quand tu es dans ces clubs-là, tu te heurtes à autre chose que le football. Et donc Emery.
Quelle est la personnalité qui arrive? Décris-moi la personnalité qui y arrive.
Ancelotti, par exemple.
Non, je t'ai donné l'exemple.
Parce que c'était une période de sa carrière, mais globalement, Ancelotti est le type. Non, mais globalement, c'est le type même d'entraîneur qui, quel que soit le système tactique ou les joueurs que tu peux avoir, a une forme de respect, d'emprise sur ses joueurs à ce niveau-là. Alors sauf oui, que, il a dans sa carrière, il a
que,
eu effectivement.
Sauf que, effectivement, quand il arrive au Bayern, il n'a pas pris en compte la donnée Bavière et il s'est fait manger par la Bavière. Il n'a pas réussi à changer. Donc chaque club a sa particularité. Alors que tu me dises que il y a plus de chances.
Pas garantie non plus du succès partout.
Voilà, il n'y a pas la garantie partout et que tu me dises que lui, on va dire que sur la totalité des clubs de par son passé, il va réussir à s'imposer. Ok, je suis pas sûr qu'Ancelotti aujourd'hui tu le mettes à Manchester United, il fasse quoi que ce soit. C'est trop gangréné à l'intérieur. Il faudrait changer la moitié de l'équipe pour qu'il arrive en
faire quelque chose. Pour revenir au débat,
le Real, c'est presque un confort. Vu l'effectif.
Pour revenir au débat, Emery, je te dis juste, et moi je l'adore, que faut pas qu'il y ait de hype immédiate en disant mais ça y est, Emery est devenu un très grand coach et tu peux le mettre dans n'importe quel grand club.
Il est mieux là maintenant qu'il a toutes les clés. À Arsenal où il a été beaucoup critiqué, donc il a fait un truc, c'est qu'il a beaucoup bossé son anglais. Pour la communication. Maintenant, excuse-moi, mais il y a quand même des contextes. Alors ok, c'est vrai, ça fait partie des trucs à gérer et tout. Mais moi, je ne me remettrai jamais de la façon dont la France l'a accueilli. Pour moi, honnêtement, ça confinait limite au racisme. C'était franchement de la dégueulasserie intégrale. Fait par la plupart des gens qui l'a par ailleurs, dans le reste de leur vie, ne font que donner des leçons sur ce genre de sujet-là. Mais la façon d'imiter son accent, il gigote sur le banc, et machin et tout. Mais franchement, c'était dégueulasse ce qui a été dit sur Emery. Et ça, effectivement, que ça impacte aussi un vestiaire. C'est évident.
Julien, merci d'avoir été avec nous, Juju.
Merci les gars.
Bonne soirée à toi. On se revoit très vite, Julien. Je rappelle, Manchester United menait dans le temps additionnel de la première période 2-0 face à Aston Villa.
Je pense que ça restera une cicatrice quasi indélébile pour Emery. S'il réussit partout ailleurs et tout, ce qui s'est passé au PSG,
Julien est parti, mais crois-moi qu'en Angleterre, pour tout ce qui est caricature, imitation il a pris 10 fois pire. Il a pris très cher aussi. Ouais. Dans un instant, mini quiz. Voilà, petit quiz de Noël pour Daniel et pour Flo. Vous pouvez venir participer avec nous au 32-16 si vous le souhaitez. À tout de suite sur RMC.